Chapitre 29. L'atmosphère à la maison était tendue. J'étais inquiète et j'étais aux aguets. J'entendais le soir mes parents dans leur chambre chuchoter et se disputer à voix basse. Un jour, je surpris même une conversation au sujet de Biguet. Je compris, d'après ce que je pus entendre, que Biguet avait eu un petit garçon et que maman était allée la voir à l'hôpital. Elle insistait pour que papa s'y rende aussi. Ma mère voulait qu'il plaide afin de décider la Fatou à venir en France avec nous. Et je ne comprenais pas pourquoi mon père semblait si réticent. Il m'avait toujours paru beaucoup aimer Biguet. Pourquoi n'était-il donc pas plus enthousiaste à l'idée qu'elle nous suive à Paris? Moi aussi, je voulais aller voir Biguet et son bébé à la clinique. Mais j'eus beau supplier mes parents, je ne parvins pas à les fléchir. Devant mon insistance, mon père finit par concéder. Il n'est pas possible que tu ailles la voir maintenant, mais peut-être plus tard cela pourra-t-il se faire. Nous étions à 2 mois de notre retour en France, et cela sentait déjà le départ. Les déménageurs étaient passés pour estimer le volume de ce qu'ils devraient transporter. On avait sorti les grandes malles d'osier qui encombraient maintenant toutes les pièces. Mes parents y rangeaient ce qui n'était pas indispensable dans les jours à venir. Au lycée, c'était la fin du dernier trimestre. Mon père me grondait pour que je fasse des efforts car mes résultats au cours de la 6e avaient été très moyens. Mais comme je m'endormais très tard la nuit, occupée que j'étais à épier les conversations de mes parents, dans la chaleur de la classe, je m'assoupissais à moitié et n'avais guère la tête aux maths et au latin. Enfin, j'eus de la chance car mes notes, sans être brillantes, ne furent pas trop catastrophiques. Et j'échappai donc à la punition dont me menaçait mon père, si je n'avais pas la moyenne et ne passais pas dans la classe supérieure. J'étais dans un drôle d'état d'esprit, partagé entre la tristesse de quitter Dakar, cette maison dont le jardin m'avait été une sorte d'Éden, l'inquiétude pour Biguet et un ennui maussade causé par le désœuvrement de l'attente, par le sentiment d'être dans un vide entre 2 pays, entre 2 existences, entre 2 destins. Mon seul plaisir était d'aller à la plage avec mes amis après le lycée. J'essayais d'en profiter au maximum, car j'étais consciente du fait qu'à Paris, cela en serait fini de nager en liberté dans une mer chaude. Si je voulais continuer à me perfectionner en natation, il faudrait aller à la piscine et subir, dans les vapeurs du chlore, la discipline imposée par les maîtres nageurs. Les jours passaient, 1 mois s'écoula. Mes parents ne me parlaient toujours pas d'aller voir Biguet. Croyaient-ils que j'avais oublié? Un soir, au repas, je les interrogeai. « Quand irons-nous voir Biguet et son enfant? On peut leur rendre visite maintenant. Dans 1 mois, nous allons partir en France. Si on n'y va pas bientôt, il va être trop tard. » Devant les airs consternés de mes parents, je m'interrompis. Un long silence suivit mon intervention. Puis ma mère prit la parole, hésitante, comme gênée. « Tu sais, Biguet a quitté l'hôpital. » Et comme elle ne nous a pas donné sa nouvelle adresse, on ne sait pas où la trouver. Voyant son embarras, mon père vint à sa rescousse. On voulait vraiment t'emmener la voir, mais quand on a téléphoné pour s'annoncer à l'hôpital, on nous a dit qu'elle était partie avec son bébé, et elle n'a laissé aucune adresse au médecin. Mais il faut qu'on la trouve. Comment on va faire pour l'emmener à Paris avec nous si on ne sait pas où elle est? Tu sais, ma chérie, je ne crois pas qu'elle veuille venir en France. Maintenant qu'elle a un enfant, elle préfère rester avec sa famille. Elle a dit à ta mère qu'elle voulait retourner en Casamance. Mais je voudrais lui dire au revoir, ou, si elle est partie, lui écrire un petit mot d'adieu. On pourrait peut-être aller chez sa tante pour voir si elle y est encore ou pour avoir son adresse. Dis, papa, il faut que tu m'emmènes voir sa tante. Elle saura où écrire à Biguet. « Nous verrons cela, » atermoya mollement mon père. Et chaque jour, je me mis à insister, à supplier mes parents. Il faut dire que la disparition de Biguet m'obsédait et me donnait un sentiment d'insécurité. Si on pouvait disparaître comme cela, sans que ceux qui vous aiment sachent où vous étiez passé, on n'était en sûreté nulle part. À quelques jours du départ, mon père, qui avait bien perçu mon angoisse, céda. Malgré le désaccord de ma mère, il nous conduisit en voiture jusque derrière le marché Sandaga, chez la tante de Biguet. Je fus surprise de la banalité de l'endroit. C'était un boui-boui en planche et en tôle, comme il y en avait des dizaines dans Dakar, où on servait à boire. J'avais imaginé que Biguet vivait dans une maison comme la nôtre et ne m'était pas attendu à une telle pauvreté. Des hommes étaient assis devant la buvette, d'autres discutaient debout au comptoir. Mon père avait insisté. C'est moi qui devrais descendre de voiture et aller demander à sa tante où était Biguet et si je pouvais avoir son adresse. Il pensait que ma démarche aurait plus de chances d'aboutir que celle qu'ils avaient faite, lui et ma mère. Il comptait sur le fait que les Africains adorent les enfants pour attendrir la tante et obtenir ce que nous voulions. J'étais un peu intimidée de me trouver seule, blanche, au milieu de cette foule africaine, surtout composée de jeunes hommes. Mais je me redressai de toute ma taille et m'avançai vers le comptoir. Les hommes interrompirent leur conversation. Les serveuses arrêtèrent leurs allées et venues. Il me semblait que tout se figeait autour de moi dans un silence de rêve. Je me retrouvai devant le comptoir où trônait une grosse femme très laide, au visage dur. Elle me toisa de toute sa hauteur. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, petite Toubab ? Tante Malou n'accepte pas les mineurs dans son établissement. » « Je voudrais seulement voir Biguet, balbutiai-je. » La grosse femme rit méchamment. « Ah, tu es la fille du commandant. Il n'a pas le courage de venir réclamer Biguet lui-même. Il n'a pas honte d'envoyer son enfant. »« C'est moi qui veux savoir où est Biguet. C'est pas mon père, » criai-je en colère. « Dites-moi où je peux la trouver, ou donnez-moi son adresse si elle est retournée en Casamance. » « Voyez-moi cette mioche, comme un chat en colère. Elle croit qu'elle peut commander à tante Malou. C'est pas parce que tu es une blanche que tu vas pouvoir me donner des ordres. Retourne avec tes parents, que je vois là-bas qui t'attendent dans la voiture. Biguet, je sais pas où elle est. Et même si je le savais, je te le dirais pas. Allez, file !» Un grand malabar surgit de derrière le comptoir. Il était caché dans l'ombre et je ne l'avais pas vu jusque-là. Son visage était couturé de marques tribales. Il s'avançait dans ma direction. J'eus peur et je filai sans demander mon reste, sous les rires de l'assistance, rejoindre la sécurité de notre voiture. Je pleurai longtemps à gros sanglots. J'étais non seulement inconsolable, mais j'avais honte. Je trouvais que j'avais été lâche devant tante Malou et ses sbires. J'avais le sentiment d'avoir abandonné Biguet.